Vers le milieu du jour, il s'arrêta dans un petit bois pour manger un peu de pain et de quelque autre provision qu'il avait apportée avec lui. Quant à des fruits, il en avait à sa disposition tout le long de la route, et bien au-delà du nécessaire. Des figues, des pêches, des prunes, des pommes, autant qu'il en aurait pu désirer. Il n'avait qu'à se donner la peine d'entrer dans les champs pour en cueillir, s'il ne voulait les ramasser sous les arbres où le sol en était couvert, comme si une grêle était survenue. Car l'année était extraordinairement fertile, surtout en fruits, et presque personne ne portait là sa pensée. Les raisins également cachaient en quelque sorte les pampres sur la vigne, où ils étaient laissés à la discrétion de tout venant. Sur le soir, il aperçut son village. À cette vue, et quoiqu'il dût y être préparé, il se sentit donné comme une étreinte au cœur. Il fut à l'instant assailli d'une foule de souvenirs douloureux et de pressentiments non moins douloureux peut-être. Il lui semblait avoir dans les oreilles ces sinistres coups de tocsin dont il avait été accompagné, poursuivi, lorsqu'il avait fui de ces lieux. Et en même temps il entendait, si l'expression est permise, un silence de mort qui régnait maintenant. Son trouble fut plus grand encore lorsqu'il déboucha sur la place de l'église, et il osait à peine penser à celui qu'il éprouverait au terme de sa marche, car le lieu où il avait dessein d'aller s'arrêter était cette maison qu'il avait coutume autrefois d'appeler la maison de Lucia. Maintenant, ce ne pouvait être tout au plus que la maison d'Agnese. Et la seule grâce qu'il espérait du ciel était d'y trouver cette pauvre Agnese en vie et en santé. Il se proposait d'y réclamer d'elle un asile, pensant bien que sa propre maison ne devait plus être bonne qu'à y loger les fouines et les rats. Ne voulant pas se faire voir, il prit un sentier hors du village, le même qu'il avait suivi dans cette certaine nuit, où, en bonne compagnie, il était venu chez le curé pour le surprendre. À mi-distance environ sur ce sentier, se trouvait, d'un côté, la maison de Renzo, de l'autre, sa vigne, de manière qu'il pourrait, se disait-il, entrer un instant dans l'une et dans l'autre, et voir un peu dans quel état le tout se trouvait. Il marchait regardant devant lui, plein tout à la fois du désir et de la crainte de voir quelqu'un, et, au bout de quelques moments, il vit en effet un homme en chemise, assis par terre, le dos appuyé contre une haie de jasmin, dans l'attitude d'un insensé. À cette attitude, comme ensuite à l'air de l'individu, il crut reconnaître ce pauvre imbécile de Gervaso qui était venu servir de second témoin dans l'expédition qui fut si malheureuse. Mais, s'en étant approché davantage, il vit que c'était au contraire ce Tonio, si intelligent, si éveillé, par qui Gervaso y avait été conduit. La peste, en lui enlevant tout à la fois la force du corps et les facultés de l'esprit, avait développé sur sa figure et dans toute sa manière d'être un petit germe de ressemblance, autrefois inaperçu, qu'il avait avec son idiot de frère. « Oh, Tonio !» lui dit Renzo en s'arrêtant devant lui. « C'est toi ?» Tonio leva les yeux sans remuer la tête. « Tonio, ne me reconnais-tu pas ?»« Elle vient à qui elle vient ?» répondit Tonio, restant ensuite la bouche ouverte. « Tu l'as, n'est-ce pas, pauvre Tonio? Mais est-ce donc que tu ne me reconnais pas ?»« Elle vient à qui elle vient ?» répéta l'autre avec un sourire hébété. Renzo, voyant qu'il n'en tirerait rien de plus, continua son chemin, plus triste encore. Tout à coup, il voit paraître, au détour d'un coin, et s'avancer de son côté quelque chose de noir. Et il reconnaît aussitôt Don Abbondio. Le pauvre curé venait à tout petits pas, portant son bâton comme un homme que le bâton porte à son tour. Et à mesure qu'il approchait, il devenait de minute en minute plus facile de juger, à la pâleur de son visage, à son air défait et à toute son allure, qu'il avait aussi subi sa bourrasque. De son côté, il regardait le survenant. Tour à tour, il croyait le reconnaître ou se tromper. Il distinguait, à la vérité, quelque chose d'étranger dans ce costume. Mais c'était précisément ce qui était propre au costume des gens de Bergame. « C'est lui, sans nul doute, » dit-il enfin en lui-même. Et il leva les mains au ciel, par un mouvement de surprise et de contrariété, restant ensuite ainsi avec le bâton en l'air, ce qui permettait de voir combien ses pauvres bras étaient à l'aise dans les manches qu'il remplissait si bien autrefois. Renzo hâta le pas vers lui et lui fit sa révérence. Car, quoiqu'il se fût quitté de la manière que vous savez bien, c'était pourtant toujours son curé. « Vous êtes ici, vous ? » s'écria Don Abbondio. « Comme vous voyez, a-t-on quelques nouvelles de Lucia ? Quelles nouvelles voulez-vous qu'on en ait ? On n'en a point. Elle est à Milan, si toutefois elle est encore de ce monde. Mais vous ? Et Agnese est-elle en vie ? Cela peut-être, mais qui voulez-vous qui le sache ? Elle n'est pas ici. Mais où est-elle ? Elle est allée demeurer dans la Valsassina, chez les parents qu'elle a à Pasturo, vous savez bien. Parce qu'on dit que là-bas, la peste ne fait pas comme ici le diable à quatre. Mais vous, dis-je, voilà qui me fait de la peine. Et le père Cristoforo ? Il est parti depuis longtemps, mais je le savais, on me l'a fait écrire. Mais je demandais si par hasard il ne serait pas retourné dans ses contrées. Allons donc, on n'en a plus entendu parler. Mais vous, encore une chose dont je suis bien fâché. Mais vous, dis-je, pour l'amour de Dieu, que venez-vous faire ici? Ne savez-vous pas cette petite bagatelle de la prise de corps? Que m'importe, ils ont autre chose par la tête. J'ai voulu venir voir mes affaires, et l'on ne sait vraiment pas. Que voulez-vous venir voir? Lorsque, au train dont cela va, il n'y aura bientôt plus personne, il n'y aura plus rien. Et avec cette prise de corps, dis-je, venir ici, dans le pays même, dans la gueule du loup, y a-t-il du bon sens? Écoutez le conseil d'un vieillard qui est obligé d'en avoir du bon sens, plus que vous, et qui vous parle par l'intérêt qu'il vous porte. Rattachez bien vite vos souliers, et avant que personne vous voie, retournez-vous-en d'où vous êtes venu. Et si l'on vous a vu, retournez d'autant plus vite. Comment avez-vous pu vous hasarder de la sorte? Ne savez-vous pas qu'on est venu vous chercher, qu'on a fouillé, fureté, jeté sens dessus dessous? Je ne sais que trop tout ce qu'ils ont fait, les coquins. Mais par conséquent, mais quand je vous dis que cela m'est égal, et cet homme, est-il encore en vie? Est-il ici? Je vous dis qu'il n'y a plus personne. Je vous dis de ne pas songer à ce qui se fait ici. Je vous dis que... Je demande s'il est ici, cet homme. Oh, bon Dieu, parlez donc mieux que cela. Est-il possible que vous ayez encore tout ce feu dans le corps, après tant de choses qui se sont passées? Y est-il ou n'y est-il pas? Allons, il n'y est pas. Mais la peste, mon enfant, la peste! Qui est-ce qui songe à courir les chemins dans des temps pareils? S'il n'y avait d'autre mal que la peste en ce monde, pour moi, du moins, je l'ai eue, et je ne la crains plus. Eh bien donc, eh bien, ne sont-ce pas là des avertissements? Quand on s'est tiré d'un danger semblable, il me semble qu'on devrait remercier le ciel, et je le remercie en effet. Et ne pas aller chercher d'autres aventures. Faites ce que je vous dis. Et vous l'avez eu aussi, monsieur le curé, si je ne me trompe. Si je l'ai eu, horrible, atroce. Je suis ici par miracle. Il n'y a qu'à voir comme elle m'a accommodé. Maintenant, j'avais besoin d'un peu de tranquillité pour me remettre. Déjà, je commençais à me trouver un peu mieux. Au nom du ciel, que venez-vous faire ici? Retournez-vous-en. Vous êtes toujours à vouloir que je m'en retourne. Pour m'en retourner, autant valait que je reste assujetté. Vous dites, que venez-vous faire? Que venez-vous faire? Tout comme un autre, je viens chez moi. Chez vous? Dites-moi, est-il mort bien du monde ici? Hé hé! S'écria Don Abbondio. Et à commencer par Perpétua, il nomma une longue kyrielle de personnes et de familles entières. Renzo ne s'attendait que trop à quelque chose de semblable. Mais en entendant citer tant de noms de personnes de sa connaissance, d'amis, de parents, il se tenait là tout affligé, la tête basse, s'écriant à tout moment. « Pauvre homme, pauvre femme, pauvres gens !»« Vous voyez, » continua Don Abondio, « et ce n'est pas fini. Si ceux qui restent ne prennent pas cette fois un peu de bon sens, s'ils ne mettent pas de côté toutes les folies, il n'y a plus à s'attendre qu'à la fin du monde. » « Au reste, soyez tranquille, je ne compte pas m'arrêter ici. » « Ah, Dieu soit loué, vous entendez raison, enfin. Et je pense bien que vous comptez retourner sur le bergamasque. Ne vous inquiétez pas de cela. Quoi ? Voudriez-vous faire quelque sottise encore plus grande ? Ne vous inquiétez pas de cela, vous dis-je. C'est à moi d'y songer. Je ne suis pas un enfant et je sais marcher tout seul. J'espère bien qu'à tout événement, vous ne direz à personne que vous m'avez vu. Vous êtes prêtre, je suis une de vos brebis. Vous ne voudrez pas me trahir. Je comprends. Dit Don Abondio en soupirant avec dépit. « Je comprends. Vous voulez vous perdre et me perdre avec vous. Il ne vous suffit pas de tout le mal que vous avez éprouvé, de tout celui que j'ai éprouvé moi-même. Je comprends, je comprends. » Et en continuant de murmurer entre ses dents ces derniers mots, il reprit son chemin. Renzo demeura tout contristé, tout contrarié, et cherchant dans sa tête en quel endroit il pourrait aller prendre gîte. Dans la liste funèbre dont le curé lui avait récité les noms, il était une famille de villageois, emportée tout entière par la peste, à l'exception d'un jeune homme, à peu près de l'âge de Renzo, et son camarade dès l'enfance. Sa maison était hors du village, à peu de distance. Ce fut là qu'il résolut d'aller. Chemin faisant, il passa devant sa vigne, et du dehors même, il put aussitôt juger de l'état dans lequel elle était. Nulle branche, nulle feuille des arbres qu'il y avait laissés ne se montrait au-dessus du mur. Et toute verdure qui pouvait s'y faire voir appartenait à ce qui avait germé sur cette terre pendant son absence. Il se présenta à l'ouverture où avait été la porte, dont il ne restait plus vestige. Il parcourut de l'œil l'enceinte, pauvre vigne. Pendant deux hivers consécutifs, les gens du village étaient venus faire du bois dans le bien de ce pauvre garçon, comme il disait. Vigne, mûrier, arbre fruitier de toute espèce, tout avait été impitoyablement arraché ou coupé au pied. On apercevait cependant encore des traces de l'ancienne culture, de jeunes ceps qui, bien que les rangées en fussent interrompues, marquaient la ligne dans laquelle elles avaient existé. Ça et là, et par buissons, des rejetons de mûriers, de figuiers, de pêchers, de cerisiers, de pruniers, mais tout cela épars, tout cela étouffé, au milieu de tout ce qui avait poussé sans le secours de la main de l'homme. Ce n'était sur toute la surface du sol qu'orties, fougères, ivraie, chien-dent, folle-avoine, chicorée sauvage et autres plantes de tant de sortes dont l'habitant des campagnes, en tout pays, a fait une seule et grande classe à sa manière, en les nommant mauvaises herbes ou quelque chose de semblable. Partout une confusion de tiges qui semblaient vouloir se dépasser l'une l'autre en l'air, ou se devancer en se traînant sur la terre, se ravir en un mot, la place dans tous les sens. Partout, un mélange de feuilles, de boutons, de coques, de fruits de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les dimensions. Parmi cette multitude de plantes, on en voyait quelques-unes plus élevées, plus apparentes, sans être pour cela meilleures, du moins pour la plupart. Le raisin d'Amérique, par-dessus toutes les autres, étalant ses larges branches, ses riches feuilles, ses grappes recourbées, que le pourpre et le vert paraît à l'envi de leurs nuances. Note du traducteur. Cette plante, de belle apparence, est commune dans le nord de l'Italie, où elle croît dans les endroits incultes. Fin de la note. la Molène, avec ses grandes feuilles veloutées, touchant la terre, sa tige élancée, et les fleurs d'un jaune vif qui la couvrait. Note du traducteur. Autrement et plus communément, bouillon blanc. Fin de la note. Les chardons, n'offrant qu'épines dans leurs branches, leurs feuilles et le calice de leurs petites fleurs blanches ou purpurines, du sein desquelles s'envolaient, au souffle de l'air, de légers flocons argentés. Ici, des touffes de liserons s'attachaient aux rejetons d'un mûrier, les enveloppaient tout entiers de leurs feuilles, et, du haut, laissaient pendre leurs blanches et gracieuses cloches. Là, la brionne aux baies vermeilles s'était enlacée au nouveau cep d'une vigne qui, ayant cherché en vain un plus ferme soutien, l'avait saisie à son tour. Et toutes deux, mêlant leurs tiges débiles et leurs feuilles à peu près semblables, s'entraînaient mutuellement vers la terre, comme il arrive souvent aux faibles qui se prennent l'un l'autre pour appui. La ronce était partout. Elle allait d'une plante à l'autre. Elle s'élevait et redescendait, repliait ses branches ou les étendait, et, les portant jusqu'au travers de l'entrée, semblait y disputer le passage au maître lui-même du lieu. Mais celui-ci n'avait nulle envie d'aller parcourir une vigne mise dans un semblable état. Et peut-être ne s'arrêta-t-il pas autant à la regarder que nous à tenter d'en faire le croquis. Il poursuivit son chemin. À peu de distance était la maison. Il traversa le jardin, enfonçant jusqu'à mi-jambe dans les mauvaises herbes qui, là, comme dans la vigne, couvraient le terrain tout entier. Il mit le pied sur la porte de l'une des deux petites pièces qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Au bruit de ses pas, à son aspect, d'énormes rats troublés dans leur repos s'enfuirent en se croisant en tous sens et se cachèrent sous un tas d'ordures qui couvraient les carreaux. C'était encore le lit des lansquenets. Il jeta un coup d'œil sur les murailles, elles étaient écroulées, salies, enfumées. Il leva les yeux vers le plancher. Les toiles d'araignée d'un bout à l'autre le tapissaient. C'était tout ce que la pièce contenait. De nouveau, il se hâta de s'éloigner, en portant les mains à ses cheveux, et repassa par le sentier qu'il venait de se frayer dans le jardin. À quelques pas de là, il prit un petit chemin à gauche qui conduisait dans les champs. Et sans voir ni entendre âme qui vive, il arriva près de la petite maison où il avait projeté de s'arrêter. Déjà il commençait à faire obscur. Son ami était assis, hors la porte, sur un banc de bois, les bras croisés, les yeux fixés vers le ciel, comme un homme étourdi par le malheur et rendu sauvage par la solitude. En entendant marcher, il se tourna pour reconnaître qui venait et, d'après ce qu'il crut voir au peu de jour qui éclairait encore, à travers les branches et le feuillage, il dit à haute voix, en se dressant et levant les deux mains. « Y a-t-il donc que moi? N'en ai-je pas fait assez hier? Laissez-moi un peu de repos, ce sera aussi une œuvre de miséricorde. » Renzo, ne sachant ce que cela voulait dire, lui répondit en l'appelant par son nom. « Renzo ? » dit l'autre, dans une exclamation qui était tout à la fois une interrogation. « Oui, vraiment ?» dit Renzo, et ils coururent l'un vers l'autre. « Comment, c'est bien toi ?» dit l'ami, lorsqu'ils se furent joints. « Oh, que j'ai de plaisir à te voir ! Qui aurait pu se l'imaginer ? Je t'avais pris pour Paolino, le fossoyeur, qui vient me tourmenter sans cesse pour que j'aille enterrer des morts. Sais-tu que je suis resté seul ? Seul, seul comme un ermite ! « Je ne le sais que trop, » dit Renzo. Et en échangeant et confondant ainsi leurs amitiés, leurs questions et leurs réponses, ils entrèrent ensemble dans la maison. Là, sans interrompre leurs propos, l'ami se mit en devoir d'offrir un petit régal à Renzo, du moins autant que cela lui était possible, étant pris ainsi à l'improviste et dans un temps pareil. Il mit l'eau sur le feu, et commença à faire la polenta. Mais il céda ensuite le rouleau à Renzo pour que celui-ci la tournât, et il sortit en disant Je suis resté seul, tout seul. » Note du traducteur. Ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est le rouleau de bois avec lequel on tourne la polenta dans le poêlon pour la faire cuire. Fin de la note. Il revint avec du lait dans un petit seau, un peu de viande salée, deux petits fromages, des figues et des pêches. Et le tout étant en place, la polenta renversée sur la planche, ils se mirent ensemble à table, se remerciant mutuellement, l'un de la visite, l'autre du bon accueil. Après une absence de près de 2 ans, ils se trouvèrent tout à coup beaucoup plus amis qu'ils n'avaient cru l'être dans le temps où ils se voyaient presque tous les jours. Parce qu'à tous les deux, dit ici le manuscrit, était arrivé de ces choses qui font sentir quel baume est pour l'âme l'amitié, tant celle que l'on éprouve que celle qu'on trouve chez les autres. Personne, sans doute, ne pouvait remplacer Agnese auprès de Renzo, ni le consoler de ne pas l'avoir rencontré, non seulement à cause de cette affection ancienne et toute particulière qu'il avait pour elle, mais aussi parce que, parmi les choses qu'il désirait le plus d'éclaircir, il en était une dont elle seule avait la clé. Il fut un moment à se demander s'il ne devrait pas, étant aussi près d'elle, aller avant tout la chercher. Mais en considérant qu'elle ne saurait rien de la santé de Lucia, il s'en tint à son premier dessein d'aller directement se tirer à cet égard de son incertitude, recevoir sa sentence et revenir ensuite rapporter à la mère le résultat de ses perquisitions. Il apprit cependant de son ami bien des choses qu'il ignorait, et il eut des notions plus exactes sur plusieurs autres qu'il savait mal, sur les aventures de Lucia, par exemple, sur les persécutions dirigées contre lui-même, sur la manière dont le seigneur Don Rodrigo, portant la queue entre les jambes, avait quitté la contrée, où il n'avait plus reparu depuis. En un mot, sur tout cet ensemble de faits qu'il avait tant d'intérêt à connaître. Il apprit aussi, et ce n'était pas pour Renzo une instruction de peu d'importance, quel était au juste le nom de famille de Don Ferrante. Agnese, il est vrai, lui avait fait écrire ce nom par son secrétaire, mais Dieu sait comme il avait été écrit. Et l'interprète bergamasque, en lui lisant la lettre, en avait fait un mot tel que si Renzo était allé, ce mot à la bouche, chercher dans Milan la demeure du personnage, il n'aurait probablement trouvé personne qui devinât de qui il voulait parler. Et c'était là cependant l'unique fil qui put le guider dans la recherche qu'il allait faire de Lucia. Quant à la justice, il reconnut toujours davantage, parce que lui dit son ami, que le danger de ce côté était assez éloigné pour qu'il ne dût pas en prendre grande inquiétude. Monsieur le Podesta était mort, et qui pouvait prévoir quand il lui serait donné un successeur? La plupart des sbires étaient également partis pour l'autre monde. Ceux qui restaient avaient à penser à toute autre chose qu'à des vieilleries d'un autre temps. Il raconta lui-même à son ami toutes ses aventures, et celui-ci lui fit en échange une infinité d'histoires sur le passage de l'armée, sur la peste, sur les untori, sur les prodiges que l'on avait vus. « Ce sont de tristes choses, » dit l'ami, en conduisant Renzo dans une chambre que la contagion avait rendue vide d'habitants. « Des choses qu'on n'aurait jamais cru voir, des choses à vous ôter la gaieté pour toute la vie. Mais cependant, en parler entre amis est un soulagement. » Au point du jour, ils étaient tous les deux dans la cuisine. Renzo, tout prêt à faire route, ayant sa ceinture cachée sous son pourpoint et son grand couteau dans sa poche. Quant à son petit paquet, il le laissa en dépôt chez son hôte pour marcher plus librement. « Si tout va bien, lui dit-il, si je la trouve en vie, si... Dans ce cas, je repasse par ici. Je cours à Pasturo, donner ma bonne nouvelle à cette pauvre Agnese, et puis... Et si par malheur, par un malheur que Dieu veuille nous épargner, Alors je ne sais ce que je ferai. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous ne me reverrez plus dans ces contrées. » En parlant ainsi, debout sur la porte, il promenait ses regards sur l'horizon et considérait avec attendrissement et tristesse tout à la fois cette aurore de son pays que depuis si longtemps il n'avait plus vue. Son ami lui dit, comme c'est d'usage, d'avoir bonne espérance. Il voulut qu'il emportât avec lui quelques provisions pour la journée. Il l'accompagna un bout de chemin et le laissa aller ensuite en lui renouvelant ses souhaits. Renzo s'achemina sans se presser, attendu qu'il lui suffisait d'arriver ce jour-là près de Milan pour y entrer le lendemain de bonne heure et commencer aussitôt ses recherches. Son voyage fut sans accident et sans nulle circonstance propre à le distraire de ses pensées, affligé seulement toujours de la vue des mêmes misères, des mêmes douleurs. Comme la veille, il s'arrêta, lorsqu'il en fut temps, dans un petit bois pour faire son repas et se reposer. En passant, à Monza, devant une boutique ouverte où était du pain en étalage, il en demanda pour ne pas risquer d'en demeurer dépourvu. Le boulanger commença par lui défendre d'entrer, et ensuite il lui tendit sur une petite pelle une écuelle contenant de l'eau et du vinaigre, en lui disant d'y jeter l'argent qu'il avait à lui remettre pour le prix de sa marchandise, ce qui fut fait. Après quoi, au moyen de certaines pincettes, il lui présenta les deux pains que Renzo avait achetés et qu'il mit dans chacune de ses poches. Vers le soir, il arriva à Greco, sans toutefois en savoir le nom. Mais jugeant, à l'aide de quelques souvenirs des lieux qui lui étaient restés de son autre voyage, comme aussi par le calcul du chemin qu'il avait fait depuis Monza, qu'il devait être fort près de la ville, il quitta la grande route pour aller chercher dans les champs quelques cuscinetto où il put passer la nuit. Car pour des auberges, il n'y voulait seulement pas songer. Il trouva mieux qu'il ne cherchait. Il vit une ouverture dans une haie qui entourait la cour d'une ferme. Il y entra. Il n'y avait personne. Il vit sur l'un des côtés de la cour un grand hangar sur lequel était du foin entassé et contre ce foin une échelle. Il regarda encore tout autour de lui et puis il monta à l'aventure, s'arrangea pour dormir et en effet s'endormit aussitôt. Réveillé le lendemain à l'aube, il s'avança tout doucement vers le bord de son grand lit, mit la tête dehors et, ne voyant encore personne, il descendit par où il était monté, sortit par où il était entré, se jeta dans des sentiers en prenant pour son étoile polaire le Duomo et, après avoir fait très peu de chemin, il vint aboutir sous les murs de Milan, entre la porte orientale et la porte neuve, tout près de cette dernière.